Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Plus que quelques heures avant le premier coup de sifflet, le coup d'envoi du premier match de l'Euro 2016 qui verra s'affronter la France et la Roumanie. C'est parti pour un mois de tacles appuyés, de dribbles endiablés, de passes en profondeur et de clameurs. De la crétinisation des masses au plus grand des arts populaires, comment le regard sur le foot a-t-il évolué? Le foot est-il désormais un sujet d'étude noble? Peut-on parler du foot comme d'un sport vitrine? Pour en parler, je suis en compagnie d'un historien, Fabien Archambault. Bonjour, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Limoges et de Jacques Vendroux. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous êtes directeur des sports de Radio France. Vous avez intégré la maison en 1969. Comme on se connaît un peu, vous allez pouvoir nous faire des confidences. Est-ce que ça a été facile? Je sais bien que non, mais vous allez nous l'expliquer. Est-ce que ça a été facile ou difficile d'imposer le sport à Radio France qui avait plutôt une culture intello, disons?
C'était pas aussi compliqué qu'on voulait bien le dire. C'est-à-dire qu'il fallait les bons arguments pour essayer d'expliquer à France Inter, à France Culture, à France Info quelques années plus tard, et même sur d'autres chaînes, que le sport était, un élément essentiel de la vie de la majorité des Français. Parce que vous ne pouvez pas éviter de raconter sur n'importe quelle chaîne du groupe que l'Olympique de Marseille a battu le Paris Saint-Germain sur le score de 2-0 dans un match important pour la suite et l'attribution du titre des champions, parce que c'est ce qu'on appelle de l'information. Et quel que soit l'ADN, je veux dire de culture, d'inter ou d'info, la première méthode, si on peut parler comme ça, c'est d'informer les auditeurs. Et vous avez forcément sur France Culture, je dirais, qui est considérée comme une radio qui n'est pas sportive du tout, mais qui donne beaucoup d'informations, eh bien, vous avez forcément parmi vos auditeurs des gens qui veulent savoir si l'Olympique de Marseille s'est imposé hier devant le Paris Saint-Germain. Donc, avec des arguments, vous arrivez toujours à convaincre le directeur de la rédaction ou le patron de la chaîne pour essayer de leur dire le sport c'est important et notamment le football. Alors évidemment, en fonction des habitudes des différentes chaînes, vous pouvez par exemple sur France Inter vendre entre guillemets le matin dans une conférence, puisqu'on se dit tout, ce qu'on appelle le sujet décalé. Le sujet d'information générale qui concerne le sport, pas forcément le résultat ou le compte-rendu d'un match, la vie d'un joueur, l'histoire d'un joueur, l'histoire d'un club, mais d'une manière un peu plus travaillée.
Donnez-nous un exemple.
Ben, par exemple, vous pouvez entendre sur France Inter la jeunesse de Deschamps au Pays Basque. Comment il est arrivé à Nantes au centre de formation, comment il a été choisi alors qu'il y avait à l'époque 400 ou 500 joueurs qui avaient le même niveau que Didier Deschamps. Pourquoi Didier Deschamps a été retenu lui et pas un autre? Cette complicité avec les joueurs de l'époque, Marcel Desailly, etc. Donc si vous voulez, ce qu'on appelle le sujet d'information générale du sport. Et ça intéresse toutes les chaînes en règle générale.
Fabien Archambault, vous êtes historien, ce regard distancié, pour dire les choses de manière euphémisée, que les élites ont longtemps eu à l'égard du sport et en particulier du foot, a-t-il évolué? Comment l'expliquez-vous, vous qui avez beaucoup travaillé sur la manière dont on se représente le sport dans nos sociétés?
Ah bah, alors ce serait une longue histoire, hein, mais on peut dater ça des années 90, en France. On va dire pour les élites, qu'elles soient politiques, intellectuelles, financières, c'est la victoire en 1998 qui constitue un basculement.
C'est si tardif que ça?
Oui, bah moi quand j'ai commencé ma thèse, c'était au début des années 2000. C'était pas forcément facile d'échapper à des sourires en coin sur le fait de travailler sur le football en histoire contemporaine. Pour d'autres exemples, quand on voit ce que lisent les élites, la bourgeoisie française, leur journal de référence, Le Monde, jusqu'à la Coupe du Monde 98, il n'y a pas d'article sur le football. Le football reste un sport populaire, alors ce qui ne veut pas dire qu'il est lié seulement à la gauche, c'est un... je pense que les recherches l'ont montré, c'est d'abord un sport catholique en France. Les grandes zones d'implantation des pratiquants, c'est l'ouest de la France, la Bretagne, la Normandie, la Basse-Vallée de la Loire, le Lyonnais. L'Église étant, on va dire, l'emprise de l'Église sur la société ayant été combattue depuis un siècle en France, elle n'a jamais revendiqué ce rôle-là. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, le sport n'est pas principalement un sport ouvrier en France. Ça reste le sport des classes populaires. Et du coup, hein, à la différence d'autres pays, hein, par exemple l'Italie ou l'Angleterre, dans les élites, il n'y a pas le besoin, parce qu'ils ne le pratiquent pas, on ne s'intéresse pas au football. Tout change en 98 quand les élites politiques ont le sentiment qu'elles peuvent récupérer la victoire de 98. Les élites économiques, dans un contexte de financiarisation, qu'on peut faire de l'argent avec le football, et donc le reste suit.
Jacques Vendroux, vous qui suivez le sport pour Radio France depuis 1969, avez-vous vu
1966 à l'ORTF et après en 69 à France Inter.
Alors, quelles sont les évolutions que vous avez vues?
Je suis pas tout à fait d'accord avec notre ami. Je crois que le premier détonateur a été dans l'imaginaire des Français avec ces joueurs légendaires de 1958, les Roger Piantoni, les Raymond Coppa, les Claude Habe, etc., les Juste Fontaine. Ça a commencé ça un petit peu, l'histoire du football, avec les fameuses élites dont vous parlez. Et après, ça a été confirmé doucement, tranquillement, sans affolement, et tout a explosé en 84, à l'époque de Michel Platini, Alain Giresse, quand ils sont devenus champions d'Europe. Alors après, il y a eu l'éclatement, évidemment, de 98, mais le football, de toute façon, fait partie de l'ADN de 50% des Français. Alors on peut le critiquer, on peut le blasphémer, on peut éventuellement dire il y a beaucoup trop d'argent, etc. On peut découvrir tous les matins un scandale, une histoire de dopage, etc. Et c'est souvent malheureusement la réalité, sauf que le sport reste toujours très populaire.
Jacques Vendroux, vous êtes originaire du nord de Calais, une famille plutôt catholique de droite. On aimait beaucoup le sport, alors même qu'on était engagé en politique, grand-père député, on allait au match de foot?
Bien sûr, bien sûr. Moi, si je suis devenu commentateur de football ici à Radio France, c'est grâce d'abord à mon grand-père et mon père, parce que quand j'étais gamin, mon grand-père m'a emmené voir les matchs de l'Union Sportive de Calais et mon père m'a emmené voir les matchs du Racing Club de Calais, qui étaient les deux clubs de la ville, qui étaient forcément complètement ennemis, etc. Et il y avait des débats à n'en plus finir dans la famille, qui étaient pour le Racing et qui étaient pour l'US Calais. Donc c'est vrai, vous avez raison, moi j'ai été élevé dans une famille de droite, j'ai été élevé dans une famille assez catho, mais curieusement, à mon grand étonnement, parce que j'étais pas encore assez malin pour comprendre, je veux dire, la véritable signification du mot droite, etc., dans cette ville, il y avait beaucoup de gens de l'élite de Calais, si on peut parler comme ça, qui venaient au stade tous les dimanches dans deux stades différents.
Fabien Archambault, la gauche, à contrario, a entretenu une relation assez ambiguë, finalement, avec le foot.
Oui, la gauche, hein, historiquement, de toute façon, se méfie du sport. Hein, tout au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, hein, c'est une importation bourgeoise des élites libérales anglophiles. Ça change assez vite, notamment dans l'entre-deux-guerres, avec un projet, on va dire, hygiéniste et d'encadrement de la jeunesse, essentiellement, mais aussi des masses, on va dire. Le gros problème, hein, pour la gauche, on va dire, à partir des années 30 et dans tout l'après-guerre, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que, par exemple, hein, le Parti communiste, hein, par idéologie, s'oppose au professionnalisme. En même temps, ce sont des partis qui sont censés être en contact avec les masses populaires, et les masses populaires s'intéressent au sport, notamment, surtout, au cyclisme, qui est le grand sport populaire. Donc le football, on s'en méfie un peu, parce qu'il est considéré comme emblématique de toutes les dérives du professionnalisme. Mais en même temps, il y a un grand pragmatisme, c'est que ça plaît à l'ouvrier. Et donc, Georges Marchais, hein, est forcé de se mettre derrière la Saint-Etienne pour pas donner l'impression de... Ou du Red Star.
Mais les différents présidents de la République que vous avez suivis, Jacques Vendroux, s'intéressaient-ils de la même façon au sport? François Mitterrand s'intéressait au foot?
Les différents présidents de la République que j'ai côtoyés, soit à titre personnel ou soit dans le cadre de mon métier, d'abord par exemple le général de Gaulle, lui c'était le maillot de la France. C'était le coq, c'était le groupe. Et quand il parlait d'un joueur, il disait tel joueur de l'équipe de France de rugby ou de l'équipe de France de football. Après, vous avez Georges Pompidou, qui était très rugby, mais toujours très cocardier. Il y avait cette génération, d'hommes d'État, le général de Gaulle, Georges Pompidou, qui était pour le maillot bleu, blanc, rouge, la République, très cocardier. Et puis après est arrivé, vous l'avez dit, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui, très honnêtement, il était complètement à côté du sujet, sauf tout le respect que j'ai pour lui. Je veux dire, bon, le sport pour lui n'avait absolument aucun intérêt. Enfin, je l'ai interviewé deux ou trois fois, j'étais un ovni, je veux dire, quand je lui posais des questions.
Et il allait au match de foot ?
Il allait au match de foot parce qu'il y avait la tradition d'aller à la finale de la Coupe de France, d'aller à la finale du championnat de France de rugby. C'était une tradition républicaine, donc il était obligé d'y aller. Et je vous signale, c'est amusant que vous posiez cette question, parce que c'est l'un des rares présidents de la République qui a souvent, pendant son septennat, envoyé son premier ministre, qui était à l'époque Raymond Barre. Et donc Giscard essayait de s'en sortir, parce que c'était pas sa tasse de thé, le sport. Et puis après, le sport est revenu à l'Élysée avec François Mitterrand, qui lui était vraiment très très proche du sport en règle générale.
C'est vrai, il connaissait...
Le cyclisme, il adorait le cyclisme, il adorait le vélo, il adorait les sports collectifs. Et puis après, je terminerai par Jacques Chirac, qui lui survolait ça parce que il voulait absolument que la France gagne. Et les deux grands spécialistes que moi j'ai connus, mais vraiment des vrais spécialistes de sport, qui lisent l'équipe tous les matins, qui sont passionnés, à qui vous pouvez poser des questions précises, restent Nicolas Sarkozy et maintenant François Hollande.
Sylvain Kahn.
Jacques Ventroux, vous avez dit que le président de la République était cocardier. Et moi, il y a une question que je me pose toujours. Pourquoi est-ce que dans le monde médiatique, le seul espace où les journalistes ont le droit d'être cocardiers et où c'est totalement assumé, c'est le commentaire sportif et de foot en particulier?
Alors, vous avez raison de poser cette question parce que d'abord, c'est la réalité. C'est tout à fait vrai. Quand vous avez la chance de commenter des matchs de football pour que ce soit France Inter ou France Info, je veux dire, votre auditeur qui est derrière donc votre poste de radio, votre transistor ou dans sa voiture, je veux dire, quand il s'agit de l'équipe nationale, veut absolument que l'équipe de France gagne.
C'est ce que vous supposez.
Ah, mais j'en suis persuadé. C'est-à-dire que tout à l'heure, sur France-Roumanie, que nous allons commenter en intégrale sur France Info, l'auditeur qui nous écoute veut absolument que la France, sauf les Roumains qui habitent en France, on est bien d'accord, mais veulent absolument que l'équipe de France, eh bien, s'impose pour continuer son parcours dans cette Coupe d'Europe. Quand vous commentez un match entre une équipe française de club et une équipe étrangère en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, ben, c'est exactement la même chose. L'auditeur souhaite que Marseille gagne, que Saint-Étienne gagne, etc.
Au-delà de l'auditeur, si on prend le pays tout entier, est-ce que ce pays, Fabien Archambault, dans la période particulière qu'il traverse, comment peut-il vivre cette relation au foot et notamment cette relation à l'équipe de France?
Alors, c'est là aussi, je pense qu'en France, hein, on n'en est pas au niveau d'un autre grand pays de football, hein, parce que comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire on va exclure l'Angleterre, qui est un pays protestant où le rapport au sport est quelque chose de qui est depuis la plus tendre enfance, qui est éducatif. Là, on est dans un contexte de pays catholique, donc où il y a toujours une méfiance par rapport au corps et par rapport au sport. L'autre grand pays, ce serait l'Italie. L'Italie a un rapport, on va dire, symbiotique avec son équipe nationale, où les résultats dans les compétitions de football sont le baromètre de la santé du pays et de la place du pays, de la puissance du pays dans le monde. La France, on n'en est pas là. C'est-à-dire que tant mieux si elle gagne, mais si elle perd, ce ne sera pas un drame et beaucoup de gens, en fait, seront assez indifférents aux résultats de l'équipe de France pendant ce mois-ci.
Merci, messieurs, de nous avoir exposé les raisons de notre amour ou de notre désamour du foot. On se retrouve à vers 8h15. Nous serons rejoints par l'écrivain et journaliste Olivier Guez, qui, lui, notamment, a étudié la manière dont le Brésil vivait le football et qui nous expliquera là aussi comment un pays peut se révéler au travers de son football.